Vous écoutez RTL.
Merci pour votre fidélité, il est 7h.
RTL Matin, Yann Boucherie, Bernard Poirette.
Bonjour Yann.
Bonjour Bernard, bonjour à tous.
Donc le patron de Lactalis parle, Emmanuel Beignet, promet d'indemniser toutes les victimes et reconnaît des erreurs humaines.
À la une également, le suspense maintenu dans le dossier de Notre-Dame-des-Landes. La visite du Premier ministre sur le terrain n'a donné aucune indication sur la décision à venir. Des débordements hier dans un TGV vers les Alpes, le convoi a dû être stoppé momentanément à Lyon et 80 personnes interpellées par la police. Une frayeur immense pour les habitants de l'île d'Hawaï dans le Pacifique, une alerte a été envoyée par erreur sur les téléphones pour prévenir d'une attaque balistique imminente. Et puis les sports. En Ligue 1, Bordeaux retrouve des couleurs et Marseille confirme. En rugby, échec pour les trois clubs français qui jouaient hier en Coupe d'Europe.
Lui qui est un adepte du secret, Emmanuel Beignet, a dû sans doute forcer sa nature pour venir s'expliquer.
Le président de Lactalis s'exprime dans le journal du dimanche ce matin concernant le scandale qui touche son entreprise. Il précise que 12 millions de boîtes de lait infantile seront reprises dans 83 pays et que les victimes seront indemnisées. Virginie Garin, bonjour.
Bonjour.
Il minimise surtout sa responsabilité.
Oui, l'entreprise a bien respecté les règles. Certes, elle a trouvé trace de la bactérie dès le mois d'août dernier, mais elle n'était pas obligée de prévenir les autorités. C'est vrai, elle ne doit le faire que si la salmonelle est retrouvée sur le produit, dans le lait. Là, c'était un manche à balai et l'endroit a été désinfecté. Quand en décembre, les enfants tombent malades et que la répression des fraudes demande le retrait des produits, Lactalis le fait. Emmanuel Beignet reconnaît que dans la liste, il manquait 5 lots, mais la liste a été corrigée rapidement. Avez-vous voulu écouler des stocks contaminés, comme l'accusent les familles des petites victimes ? Non, répond le patron du groupe, qui affirme que sa priorité a toujours été la santé des enfants et qu'il indemnisera les victimes. Il assumera ses responsabilités, il collaborera avec la justice et tirera les leçons de cette affaire. Le système de contrôle sera renforcé. Emmanuel Beignet qui donne la première interview de sa vie, pas très à l'aise, disent nos confrères. Tout cela montre que ce géant mondial du lait fait face à une crise grave et qu'il semble enfin vouloir jouer la transparence un mois après le début de l'affaire. Un mois quand même. On connaît enfin le nombre de boîtes concernées qui vont être rappelées. 12 millions. Une information qu'il avait été impossible d'avoir jusqu'à présent.
Merci beaucoup Virginie Garin. Un enfant de 9 ans a succombé à la grippe dans la nuit de jeudi à vendredi à Lourdes. Il avait été admis aux urgences quelques heures plus tôt. L'inspection académique et l'agence régionale de santé ont mis en place une cellule psychologique. Dans le JDD, Julien de Normandie annonce la fin programmée des zones blanches en matière de téléphonie. Le secrétaire d'État à la cohésion des territoires a fini par obtenir un accord de la part des 4 opérateurs. Il devrait investir 3 milliards d'euros dans les 5 ans à venir pour implanter 5000 pylônes chacun et offrir une couverture mobile pour tous de qualité.
Pro et anti-aéroport, chacun a pu s'exprimer hier auprès du Premier ministre au cours de sa visite totalement surprise en Loire-Atlantique.
Édouard Philippe s'est rendu à Notre-Dame-des-Landes où le maire de la commune lui a réaffirmé son opposition au projet. Il a aussi rencontré la maire de Nantes et les habitants de Saint-Aignan-de-Grandlieu, riverains de l'actuel aéroport. Philippe Audouin, vous l'avez constaté, sur place, les positions ne sont pas unanimes.
Hier matin, il n'était qu'une poignée à attendre le Premier ministre devant la mairie de Saint-Aignan-de-Grandlieu. Ses habitants qui souhaiteraient voir l'aéroport déménager ont rappelé leur détermination à Édouard Philippe.
Ne surtout pas nous sacrifier, ne pas sacrifier la commune de Saint-Aignan.
Pensez à nos enfants, s'il vous plaît.
C'est pour ça que j'ai voulu venir.
Bon, très bien.
Ça nourrit une réflexion.
Merci.
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 Mais le sentiment général au sein de cette petite commune est beaucoup plus mitigé.
Je suis très partagée.
Pas à dire, j'en sais rien. On est vraiment exactement dans l'axe de la piste. Il y a vraiment les avions qui nous passent juste au-dessus. Mais il n'y a jamais plus de 30 à 40 atterrissages par jour au grand maximum.
Tant qu'il y aura cet aéroport, Saint-Aignan ne se développera pas. Il y a une réelle nuisance.
Les avions, moi, ils ne me gênent pas. Je sais qu'il y a des répercussions peut-être sur la santé, le stress, etc. Moi, pour l'instant, je ne suis pas stressée, je suis en bonne santé.
Nous, on a la chance d'avoir une maison qui est extrêmement bien isolée. Du coup, on ne les entend quasiment pas. Donc, l'impact n'est pas si important.
Reste un doute tout de même pour les habitants de Saint-Aignan, car un aménagement de l'aéroport actuel pourrait augmenter les nuisances.
Philippe Audouin à Saint-Aignan de Grandlieu, près de Nantes. Pour RTL, la décision gouvernementale est attendue d'ici la fin du mois de janvier. Au chapitre politique, Dominique Bussereau, l'ancien ministre des Transports, annonce qu'il se met en congé des Républicains jusqu'à la campagne des européennes de 2019. Gérard Filoche, de son côté, exclu du PS après un tweet antisémite, va créer un nouveau réseau intitulé « La gauche démocratique et sociale ». Et puis notez enfin que François Bayrou, président du Modem, sera l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI aujourd'hui de 12h à 13h.
Hier, un TGV qui devait rejoindre Évian au départ de Paris a dû être détourné sur Lyon-Part-Dieu en raison, disons, de débordements dans les rames.
30 personnes ont été arrêtées sur la centaine de fauteurs de troubles que les contrôleurs n'ont pas réussi à gérer durant le début du trajet. Il a donc fallu faire appel aux forces de l'ordre, Arnaud Grange.
Les débordements ont commencé une demi-heure après le départ de ce TGV qui transportait 660 passagers, parmi eux 200 personnes membres de la communauté des gens du voyage. Des jeunes dont certains étaient fortement alcoolisés et pour le moins déchaînés, musique à fond, ils ont rapidement mis la pagaille, n'hésitant pas à jeter de la nourriture, renverser des boissons sur les sièges et dans les rames ou encore à fumer. Dépassé face à cette centaine de jeunes ingérables, le personnel a rapidement alerté les forces de l'ordre. Le wagon-bar a dû être fermé et le TGV dérouté pour une halte improvisée à la gare de la Part-Dieu. Sur place, une centaine de policiers étaient déployés. Un dispositif impressionnant selon ce passager.
Ils ont sécurisé le train. Au début, on ne pouvait pas sortir du tout. Tous les quais étaient complètement fermés. Et tous les quais, il n'y avait plus personne sur les quais nulle part, à part la police. Ça a été plutôt bien géré par la police qui est très présente mais agréable.
30 passagers ont été interpellés et 50 autres ont été simplement débarqués du train. Aucun voyageur n'a été blessé. Ils ont pu repartir de Lyon avec 2 heures de retard et dans un TGV en piteux état. Pas de casse, mais un important ménage est à prévoir.
Le reportage d'Arnaud Grange en fin de journée. Toutes les personnes interpellées avaient été remises en liberté, sauf une en garde à vue après des coups au visage portés sur un policier au moment de son arrestation. Une bagarre entre bandes rivales a tourné au drame hier à Paris. Un adolescent de 15 ans a été mortellement poignardé rue de la Roquette, dans le 11e arrondissement, près de la Bastille. La confrontation n'a duré que quelques minutes, aux alentours de 19h30, entre des jeunes appartenant à des bandes du 11e et du 20e arrondissement.
À Hawaï, l'alerte au missile lancé hier est digne des plus grands canulars de l'histoire. Sauf qu'il ne s'agissait pas d'une blague, mais d'une erreur humaine.
Oui, les habitants ont reçu un message sur leur téléphone pour les prévenir d'une attaque balistique imminente. Malgré le démenti des autorités, la nouvelle a créé une véritable panique sur l'île, Philippe Corbet.
Oui, il était 8h07, 1,5 million d'Hawaïens et les touristes ont reçu une alerte sonore stridente sur leur téléphone. C'est la sonnerie envoyée en cas d'urgence météo ou terroriste, mais là, le message annonçait l'arrivée imminente d'un missile. Donner l'ordre de se réfugier dans un abri. Message répété aussi automatiquement sur les télés, les radios. Ce n'est pas un exercice, prévenait la bande sonore automatique. Très vite, les autorités se sont rendues compte que c'était une erreur humaine au changement de service. Un employé a appuyé sur le mauvais bouton. Mais ils n'avaient pas prévu de procédure rapide pour envoyer un second message de fausse alerte. Pour rassurer tout le monde, il leur a fallu 37 minutes. Beaucoup d'habitants terrifiés hurlaient, pleuraient, appelaient leurs proches pour leur dire qu'ils les aimaient, couraient sur les routes vers des abris improvisés, un tunnel, un garage. Une élue raconte qu'elle a fini dans une baignoire à prier avec ses enfants. 37 minutes d'horreur. Des sanctions vont tomber, les procédures vont être changées. Des exercices d'alerte mensuels ont été mis en place début décembre. Mais ces scènes de panique confirment que beaucoup d'Américains sont désormais convaincus qu'une attaque nucléaire n'est plus inimaginable.
Philippe Corbet aux États-Unis pour RTL. En bref, le président Emmanuel Macron s'est entretenu hier par téléphone avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui l'exhortait à revoir l'accord sur le nucléaire iranien. Le chef de l'État a défendu le nécessaire respect de cet accord par toutes les parties.
Il est décédé le 5 décembre dernier sans avoir publié son dernier ouvrage. C'est Jean d'Ormesson, bien sûr. Et il est à nouveau dans les librairies cette semaine avec son livre testament qui s'intitule « Et moi, je vis toujours ».
Succès garanti avec ce 41e roman pour l'académicien dont les écrits s'arrachent depuis un peu plus d'un mois. Sophie Orange, 140 000 ouvrages viennent d'être imprimés au total, dont les premiers sont partis comme des petits pains.
Impossible de rater le nouveau d'Ormesson. À la librairie La Procure, des dizaines d'exemplaires sur une table juste en entrant.
Nous en avons reçu 1000, livrés par Gallimard.
Bertrand Deschamps, le responsable du magasin, a vu grand pour les premiers jours, autant que pour un nouvel Astérix, mais il sait qu'il ne prend pas de risque.
On est entré dans quelque chose de nouveau avec ce nouveau livre. Ça va redoper, si elles en avaient besoin, les ventes de tous les autres d'Ormesson. Ça n'est pas terminé.
La librairie Gibert en met en rayon 200 pour le week-end, 6 fois plus que pour le dernier livre de Jean d'Ormesson en 2016.
Avez-vous le dernier Ormesson ?
Le voici, il est là.
Même succès dans la librairie L'Avocat, dans le 16e arrondissement de Paris.
Je l'ai toujours aimé et que je l'aimerai toujours. Je pense toujours à son sourire. On ne voit pas beaucoup de gens très joyeux en ce moment.
L'antidote à la monotonie, c'est magnifique et il continue de vivre dans ce livre. C'est très joyeux, c'est très bien.
Frédéric Herry en vend 3 fois plus qu'une autre nouveauté.
Une trentaine par jour, un chiffre pour une librairie traditionnelle de quartier assez exceptionnel.
Avec des clients qui l'ont même réservé depuis plusieurs jours par crainte des ruptures de stock.
Merci beaucoup et à bientôt.
Le reportage à Paris de Sophie Orange.
Une pause dans le journal de Yann Boucherie avant d'évoquer les sports. Bordeaux respire un peu mieux après sa première victoire en Ligue 1 depuis de longues semaines. C'est pas à vous que la dame disait merci et à bientôt Yann Boucherie. Je pense que c'est à Jean d'Ormesson. Il me semble en tout cas.
RTL Matin 7h11, Yann Boucherie, Bernard Poirette, on passe au sport.
Absolument, le football d'abord en Ligue 1, Bordeaux a enfin redressé la tête après 6 défaites consécutives.
Les Girondins se sont imposés à 3-1-0 grâce à un but de Gaëtan Laborde, un vrai bol d'air alors qu'ils n'avaient gagné qu'un seul de leurs 12 derniers matchs de championnat. Hier soir dans l'Aube, le patron d'M6, propriétaire du club, avait fait le déplacement. Nicolas de Taverneau, soulagé et combatif au micro RTL de Frédéric Joly.
Bordeaux n'est pas complètement sorti de la crise ce soir, mais Bordeaux a fait un bon mouvement ce soir. Il y a des choses à confirmer. Notre place n'est pas une place de 13e normale, donc il va falloir continuer. Ça marche en avant, c'est pas fini. Je crois que c'était important que dans des moments difficiles, il faut qu'il y ait une solidarité à l'intérieur du club, entre les joueurs, le staff, l'actionnaire, les dirigeants. Et donc il y a eu une solidarité autour de l'équipe, et j'espère qu'on aura le soutien. Dans le match de Caen, qui reste un match très important à gagner, nous avons une série, ensuite il y a Nantes et ensuite il y a Lyon. Il faut que ce match à domicile, à la maison, montre la même implication qu'on a vue ce soir à Troyes, qui est la bonne satisfaction d'aujourd'hui, c'est l'implication des joueurs sur le match.
Et grâce à ce succès, Bordeaux remonte à la 13e place avec un point d'avance sur Lille, qui s'est imposé 1-0 à Caen. Première victoire de Christophe Galtier en Ligue 1 avec le LOSC. Victoire aussi de Nice sur Amiens 1-0. Pas de but entre Montpellier et Monaco. Enfin, un but partout entre Dijon et Metz. Voilà pour les résultats de la soirée.
Un peu plus tôt dans l'après-midi, Marseille avait frappé assez fort en s'imposant à Rennes 3-0.
Début de Germain, Sanson et Thauvin qui permettent à l'OM de rejoindre provisoirement Lyon à la 3e place du classement. Rudy Garcia ne s'en cachait pas. L'ordre des matchs pouvait être favorable à son club. L'entraîneur phocéen au micro RTL de Philippe Audouin.
On avait vraiment envie de mettre la pression aussi sur nos adversaires directs. C'est une des rares fois où on joue avant tout le monde. D'habitude, on suit et on regarde ce qu'ils font et après, on doit jouer. Et Dieu sait si ça court vite devant. Donc, pour l'instant, on a rattrapé Lyon et Monaco. Et maintenant, on va regarder tranquillement, voir si on se rapproche un peu ou pas. Ce soir, on a été bien. On a été bien à tous les niveaux. Pour l'instant, on est quatrième au goal average, je pense. Et ça va être long encore. C'était que la 20e journée. Il y a du chemin.
Trois matchs au programme aujourd'hui. Saint-Étienne-Toulouse à 15h, Lyon-Angers à 17h. Enfin, Nantes-PSG à 21h. Paris avec Cavani, mais sans Neymar ni Pastore à la Beaujoire. À l'étranger, à un mois de son duel avec le PSG en Ligue des Champions, le Real Madrid est en crise. Le club merengue a chuté à domicile contre Villarreal 1-0. Hier, son troisième match sans succès consécutif en championnat depuis sa déroute 3-0 contre le Barça dans le Classico. Zinedine Zidane, l'entraîneur, est de plus en plus fragilisé. Et puis en Ligue 2, hier, Lorient a facilement battu le Gazélec Ajaccio 4-1 et remonte à la 5e place du classement à 11 points du leader Reims.
En rugby, les clubs français ont fait vraiment pas le figure hier au cours de la 5e journée de la Coupe d'Europe.
Clermont a raté l'occasion de se qualifier pour les quarts de finale en s'inclinant 34-21 à Northampton, mais reste leader de la poule 2. La Rochelle s'est inclinée 20-13 en Ulster, mais un succès à domicile face aux Harlequins le week-end prochain lui assurerait à coup sûr une place en quart. Enfin, Montpellier a été écrasé à Exeter 41-10 et a compromis ses chances de qualification. Suite à des rencontres aujourd'hui avec Racing Munster à 16h15 à la U Arena, selon l'entraîneur francilien Laurent Travers, il s'agit d'un match couperet.
C'est vraiment le 16e de finale. Pourquoi ? Parce que le Munster joue sa qualification et nous, on peut jouer notre élimination. Donc, ce qui est important pour nous, c'est que l'on puisse faire le meilleur match possible, le remporter pour pouvoir espérer avoir un 8e de finale la semaine prochaine sur les terres de Leicester. Donc, on va faire en sorte de répondre présent comme les joueurs ont pu le faire sur les dernières semaines.
Vous dites souvent que c'est à domicile qu'on risque le plus, dans la vie d'ailleurs, comme sur le terrain.
Oui, parce que lorsqu'on n'est pas loin de son domicile ou lorsque l'on pense que ça y est, c'est acquis, c'est là où souvent il arrive que l'on puisse se relâcher, c'est là où l'accident arrive. Donc à nous de faire ce qu'il faut pour rester concentré et rester éveillé surtout.
Laurent Travers au micro RTL de Jean-Michel Rascol. À suivre également aujourd'hui Toulon-Trévise à 14h et Castres-Leicester à 18h30. Enfin, un mot de handball, la France affronte l'Autriche à 18h15 pour son deuxième match de l'Euro en Croatie.
Merci Yann Boucherie, à tout à l'heure, 8h pour votre prochain journal.